Chapitre 7, la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux, 1973-1991. Cours 1, les mutations de l'économie mondiale, années 1970-1980. Quelle transformation connaît l'économie dans les années 1970-1980? A. Choc monétaire et choc pétrolier. 1. La fin du système de Bretton Woods. À partir des années 1970, l'économie américaine est fragilisée par les coûts de la guerre du Vietnam, les importations pétrolières et une baisse de la productivité des entreprises. La balance commerciale est négative pour la première fois depuis 1893. Pour faire face à ces difficultés, le président Nixon décide en août 1971 de suspendre la convertibilité hors dollar instaurée par le système de Bretton Woods depuis 1944, puis de dévaluer la monnaie américaine. En effet, la baisse de la valeur de la monnaie rend les produits américains moins chers sur les marchés étrangers. En 1976, les accords de la Jamaïque officialisent le système d'échange flottant. Les monnaies ne sont plus définies sur le poids de l'or, mais les unes par rapport aux autres. L'instabilité monétaire crée l'incertitude chez les entrepreneurs qui limitent leurs investissements. 2. La fin du pétrole bon marché. La croissance économique de l'après-guerre est portée par une énergie bon marché. Les pays producteurs cherchent à bénéficier davantage de la rente pétrolière et ouvrent des négociations avec les grandes compagnies afin d'augmenter les prix du baril. Lors de la guerre du Kippour en 1973, les membres de l'OPEP décident d'augmenter les prix du baril, puis limitent les exportations pétrolières afin de faire pression sur les alliés de l'État d'Israël, États-Unis, Pays-Bas. Si ces restrictions prennent fin en 1974, les prix du baril demeurent instables. Un deuxième choc pétrolier lié à la révolution iranienne entraîne une nouvelle montée des prix du baril en 1979. B. Les effets de la crise. 1. Le tournant brutal de l'économie. Pour la première fois depuis 1945, un retournement de conjoncture économique produit un ralentissement général de la croissance autour de 2% et la récession dans certains pays industrialisés. En 1975, le PIB recule de 0,5% aux États-Unis, de 1,23% au Japon et de 2,5% au Royaume-Uni. Si la décision des pays pétroliers inverse le rapport de domination économique Nord-Sud dans le domaine de l'énergie, elle aggrave en même temps la situation des pays du tiers-monde qui ne sont pas producteurs de pétrole. Ces derniers se voient contraints de s'endetter massivement pour éviter la faillite. 2. La dépendance énergétique en question. Les chocs pétroliers permettent une prise de conscience de la dépendance énergétique des pays développés. L'heure est au programme d'économie d'énergie. La vitesse sur les autoroutes est limitée, les premières journées sans voiture se mettent en place en Belgique ou en Suisse. 3. Les manifestations de la crise. L'augmentation de la facture énergétique favorise l'inflation. De ce fait, la consommation s'amenuise, l'activité économique stagne, le chômage monte, entraînant un phénomène inédit de stagflation. Les pays occidentaux sont confrontés à la désindustrialisation. Le chômage s'installe de manière durable dans les pays développés, atteignant en moyenne 9% de la population active au début des années 1980. C. Les réponses à la crise. 1. Les solutions monétaristes. Les États industrialisés tentent d'abord de stabiliser le cours de leur monnaie. La lutte contre l'inflation devient une priorité par le contrôle du déficit budgétaire et une politique de réduction des dépenses. Cette politique monétariste limite les dépenses liées aux prestations sociales et aggrave les effets de la crise au sein des sociétés. Pour mieux affronter les variations du dollar, les pays de la CEE décident de renforcer leur coopération monétaire avec le système monétaire européen en 1979. 2. De nouvelles politiques anti-crise. À partir de 1980, les économistes néolibéraux désignent la trop grande intervention de l'État dans l'économie comme une entrave au développement. Margaret Thatcher applique leurs recommandations au Royaume-Uni dès 1979. Aux États-Unis, Ronald Reagan décide de favoriser les entreprises et la production par des mesures de dérégulation et d'allègements fiscaux, mais maintient les investissements de l'État dans le secteur de l'enseignement, de la défense ou encore pour aider les entreprises à adopter les nouveaux outils informatiques. La dérégulation des marchés financiers est mise en œuvre, provoquant une intense spéculation qui débouche sur des crises boursières 1987. 3. La nouvelle donne économique mondiale. Les entreprises des pays développés souffrent aussi de la forte concurrence des industries étrangères, car l'heure est au libre-échange mondial et régional, création d'un marché unique européen à partir de 1986 et au niveau mondial. Le commerce international n'a cessé d'augmenter au cours des années 1970. Les exportations mondiales passant de 579 milliards de dollars en 1976 à 1838 milliards en 1983. L'amélioration des moyens de transport avec la généralisation du conteneur, l'adoption de l'informatique, la dérégulation financière ont favorisé les investissements des entreprises multinationales pour produire dans les pays où les salaires sont bas. La politique d'ouverture et de modernisation entreprise par Deng Xiaoping lors de son arrivée au pouvoir en 1978 permet à la Chine de bénéficier de ses investissements étrangers, notamment dans les ZES, faible droit de douane, libre rapatriement des investissements, impôts réduits, et de connaître une forte croissance économique.